Du 7 au 17 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Fouki présente les fourmis, Urbain Desbois, Laurence Nerbonne, Jérôme 50, Lou-Adrienne Cassidy, L'Amalgame, Willy Graham, La Patère Rose, Kid Kuna, Jérôme Minière, Le Whiston Band, Ken Lo et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM.
Du 25 octobre au 17 novembre, le Festival du Monde Arabe de Montréal célèbre son 20e anniversaire et présente des créations inédites. Et la femme chante à Dieu, un spectacle réunissant des chants sacrés juifs, chrétiens et soufis, un grand hommage à la diva Oum Kalthoum, Raconte-moi la Syrie, un voyage à la découverte du patrimoine musical syrien et plus de 60 concerts, spectacles gratuits, débats, conférences et films. Infos et billetterie sur festivalarabe.com.
Du 14 au 24 novembre se tient l'un des plus importants festivals de films documentaires en Amérique du Nord.
Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, RIDM.
Plus de 140 films documentaires présentés en 10 jours.
Des discussions avec des cinéastes et professionnels passionnés. Des œuvres interactives innovantes. Des soirées de musique émergente et plus encore à la Cinémathèque québécoise.
Cet automne, on sera là où toutes les histoires se rencontrent.
Et vous? Consultez la programmation sur ridm.ca.
Hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines.
Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
What a day! Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Toi aussi, tu aimerais faire une entrevue avec Magda Fusaro, des Raéliennes ou les Gilets jaunes du Québec? Si le monde du journalisme numérique t'intéresse, joins-toi à notre équipe de bénévoles qui contribue à enrichir la section reportage de la radio web choc.ca. Pour t'impliquer, écris-nous à information@choc.ca ou passe nous voir à la station.
Le rendez-vous musical de l'automne, M pour Montréal, est de retour avec une 14e édition. 4 jours de concerts, 2 conférences et 2 rencontres 100% musicales avec une nouveauté cette année, le Artist Lab. Ne manquez pas Corridor, Busty and the Bass, Maybe Watson, Soran, Claudia Bouvette et la centaine d'autres artistes qui envahiront la ville du 20 au 23 novembre. Détails et billets sur mpourmontréal.com.
Tu rêves de jouer au festif de Baie-Saint-Paul? Le cabaret festif, c'est pour toi. Tu pourrais remporter plus de 30 000 $ en bourse, en spectacle et en visibilité partout au Québec et jouer devant le public curieux de Charlevoix. Tombe-nous dans l'œil. Inscription du 4 au 25 novembre, lefestif.ca/cabaret.
Bonjour, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Pop en Stock. Mon nom est Mégane Bédard et je vous souhaite la bienvenue encore une fois à cet épisode de Pop en Stock, le numéro 208 dans notre grande collection d'épisodes de Pop en Stock. Et aujourd'hui, j'ai avec moi en studio avec 3 charmantes personnes pour parler d'un sujet très chaud, un petit peu, il commence à tiédir, mais il est encore chaud. Donc, je vais commencer à ma gauche avec Régis Pierre-Fieux. Bienvenue. Bonjour.
Bien, oui, bonjour, Mégane.
Rebienvenue, en fait, parce que la dernière fois qu'on a fait un épisode, t'étais là.
Oui, celui sur Game of Thrones.
Ouais, c'est ça. Donc, merci d'être avec nous.
C'est toujours un plaisir.
Et ensuite, à ta droite. En face droite de moi, à ta gauche, plutôt. Hey, c'est dur. Hein? Ça sert à rien d'expliquer tout ça, on est à la radio.
Ouais,
en plus.
C'est vrai.
J'essaie de porter.
Mais peut-être des gens qui sont visuels, ça, qui veulent se faire une image photographique à peu près de quoi qu'on a l'air.
J'essaie de peindre un portrait.
Ben, en fait, elle est de l'autre côté de la table, là, Elisabeth.
Ouais, en face de toi, en face de moi. Elisabeth Simpson. fière animatrice des Amazones, collaboratrice régulière de Pop-en-Stock. Bienvenue, c'est le fun de t'avoir.
Ben merci de m'accueillir encore. En plus, on a parlé du sujet comme toute l'après-midi.
Ouais.
Donc là, ça va être le défi de démêler qu'est-ce qu'on a dit hors d'onde, mais qu'on n'a pas dit en onde.
Ouais, c'est
et s'assurer que le suivi avec les personnes qui vont être avec nous pour avoir cette conversation-là pour la première fois vont être capables de suivre notre flot d'idées qui est effervescent de ce sujet qui est ô combien polémique et...
Ça fait un mois, j'en parle à tout le monde. Capable. Mais on va essayer de vider notre sac et vider le sujet un peu... une bonne fois pour toutes, là. On va essayer de pas faire une autre émission de ça. Mais je pense qu'il y en a plein de choses à dire. Et l'occasion, on a une nouvelle invitée à Pop en Stock, un ancien collaborateur de la revue, par contre. Donc, Charles Gauthier-Ouellet, bienvenue.
Bienvenue, merci, ça fait plaisir.
Bienvenue, merci. C'est comme quand on va au cinéma, puis quelqu'un nous dit bon film, puis on dit à vous aussi.
Exact.
Ou au restaurant, quand on nous dit bon appétit, vous aussi.
Ouais. Ou bonne fête. Je réponds tout le temps bonne fête. Mais bienvenue. Pour la première fois à la radio.
Oui, ça me fait plaisir. Puis
je vais prendre le temps de te présenter un peu pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, tu es à la maîtrise en littérature à McGill et tu as écrit deux articles, si je ne me trompe, sur la revue Pop en Stock. Donc, un article sur la télé-réalité comme acte littéraire, très intéressant. Je vous conseille la lecture et aussi un article sur la vie littéraire comme phénomène after pop, donc la vie littéraire le texte de Mathieu Arsenault, je n'oserais pas appeler ça un roman ou quoi que ce
non,
soit là.
C'est ça exact, c'est vraiment très particulier comme ça mérite la lecture.
Et tu travailles dans le cadre de ton mémoire de maîtrise sur la survivance du mythe aujourd'hui.
Oui, donc, exactement, puis je m'intéresse plus particulièrement au mythe de la lutte dans l'œuvre de Patrick Roy.
J'imagine que tu me disais que tu étais à ta troisième année, j'imagine que ça devrait se terminer éventuellement.
Tu lui mets la pression, là.
Oui, c'est ça. Non, mais je peux pas en parler, c'est ça le truc.
J'aurais hâte de le lire, tu sais.
Ça va être sous peu, j'espère.
Ben, super. Puis, on va te plonger directement. On va parler directement plutôt de l'éléphant dans la pièce, donc du sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Pour les personnes qui. Nous écoutent, qui nous lisent et qui nous téléchargent, vous savez déjà, parce que c'est probablement le titre de l'épisode. Mais donc, on va parler de Joker, le film qui est sorti, le film dont tout le monde a parlé dans le dernier mois. Tout le monde a choc aussi, parce mm-hmm. qu'on en a parlé aux Amazones il y a quelques semaines.
Voilà.
Et on n'a toujours pas épuisé le sujet. Puis ça va être à notre tour aujourd'hui à Pop-en-Stock de s'attaquer à ce phénomène qui, je disais qu'il était... Il commençait à tiédir, mais il est encore chaud parce que récemment, il a battu plusieurs records au box-office. Donc, c'est le film le plus rentable, coté R, pardon, j'essayais de le dire, pas en anglais. Donc, qui est coté pour les 17 ans et plus. Donc, il a dépassé Deadpool, qu'on savait qu'il avait quand même pris la première place, et Venom, je savais pas qu'il avait dépassé Deadpool, mais...
Je savais pas non
Venom
plus.
Venom avait dépassé Deadpool? Ouais. Oh mon Dieu, pas c'est la déchéance du cinéma.
J'ai pas vu Venom, parce que je sais pas si c'est bon.
C'est une catastrophe, mais c'est pas le sujet.
Mais c'est pas ce sujet.
Maintenant, on va avoir un nouveau barème qui est plus commun à tout le monde. Le Joker, ouais, Joker. Est le voilà, film. Ouais.
Le plus rentable, et aussi qui s'annonce faire plus de milliards de dollars d'ici à la mondialement, je veux dire, mm-hmm. d'ici à la fin de semaine qui s'en vient. Donc, qui commence à faire vraiment beaucoup d'argent et qui pourrait, potentiellement, s'il n'y a pas de suite, être le deuxième film le plus rentable qui n'est ni qui fait ni partie d'une série, d'une suite, qui n'est pas une suite et qui n'aura pas de suite après Titanic. Fait que Titanic trône toujours en haut.
Ah, quand même!
Ouais, c'est il fait beaucoup d'argent en ce moment.
Espérons qu'une partie de cet argent aille à la santé mentale. Mais j'y crois pas trop.
C'est ça, je l'ai.
En même temps, tu disais qu'il y avait des entrevues de Joaquin Phoenix qui semblaient sous-entendre que le personnage du Joker a encore beaucoup d'aventures devant lui potentielles.
Ouais.
Donc, on a des suites peut-être prévues. Donc, il perdrait son titre à ce moment-là si une suite arrivait.
Ouais, mais c'est ça. Là, il n'y a rien de confirmé encore pour l'instant parce que En fait, c'est juste l'acteur lui-même qui va dans les médias puis qui dit « Ah, moi, j'aimerais vraiment ça qu'il y ait une suite parce que j'ai encore plein de choses à dire.
Si » ouais, c'est normal, il s'est tellement investi dans son personnage.
Ben oui. Donc, c'est ça. Joaquin Phoenix dit que c'est un personnage quand même assez complexe, qui est quand même vrai, puis que lui, il a encore plein de choses à dire sur le personnage, donc il aimerait vraiment beaucoup qu'il y ait une suite. Todd Phillips, va en arrière de lui, fait comme « Ouais, mais on n'en a pas vraiment parlé de ça, fait qu'on veut pas rien vous promettre. » Fait que c'est comme un peu ambigu en ce moment. Dans les médias, savoir s'il va y avoir une suite. Parce que c'est assez rare aujourd'hui qu'un film aussi rentable ne provoque pas de suite. Mm-hmm. Ou que, justement, on veut pas, comme Elisabeth, tu me le disais aujourd'hui, créer une nouvelle vache à lait, là. Donc,
Hey, t'imagines-tu cette année qui était sortie l'année dernière et que là, il y aurait, dans cette mouvance-là, on devrait avoir Titanic 2, 3, Titanic 4, La Revanche.
Titanic Endgame. Mais on a eu le Titanic 2, il y a un nouveau bateau là, qui est parti. N'es-tu parti? Il y a un Titanic. Un deuxième Titanic, une réplique exacte du bateau qui a fait le même chemin.
Je pensais que c'était qu'une blague de Rick and Morty quand ils font quand ils recréent toutes les scènes du Titanic. Le père de Marty qui trippe sur le Titanic et qui veut refaire la scène de la porte et tout ça. On s'égare.
On s'égare. Mais donc oui, avant de plonger dans le film lui-même, c'est intéressant aussi de justement regarder qu'est-ce qui est arrivé du côté des médias parce que le film a créé en fait, en tout cas, c'est mon observation personnelle, il y a eu vraiment un avant la sortie en salle du film pour tout le monde et un après. Avant que le film sorte en salle, il y a eu la bande-annonce qui a suggéré beaucoup de en fait, il a créé une mini panique morale, si on veut. Mm-hmm. Là. Donc, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah non, mais ça va être un film très alt-right, c'est un personnage incel, on a eu peur qu'il y ait des retours sur un retour d'une fusillade pardon dans les cinémas comme celle qu'il y avait eu lors de la projection du film de Batman mm-hmm. au Colorado en 2012. Donc il y a eu toute cette panique là qui a comme débuté, il y a eu un foisonnement de discours qui ont commencé à sortir et puis il y a eu après la sortie en salle où on a révisé un peu ces discours là mais on en parlait encore. Donc je sais pas si vous aviez quelque chose à
sur les médias, je peux mm-hmm. commencer si vous voulez. En fait, on peut noter quelque chose d'intéressant dans le traitement des médias, surtout américains. J'ai constaté, comme tu disais, avant la sortie spécifiquement, il y avait cette panique généralisée, mais qui est une panique qui était liée aussi aux avant-premières. Hein, c'est-à-dire que la plupart des journalistes voyaient l'avant-première et considéraient que c'était un film, comme tu disais, d'alt-right ou avec des incels et tout ça. Mais c'est toujours la même logique qu'il y a dans le traitement des médias américains à partir du moment où il y a un film social avec un fond de violence. C'est-à-dire qu'ils considèrent que si les gens vont voir ce film, ça y est, la société américaine va s'effondrer, tout le monde va attaquer les institutions. Et en fait, il y a comme une vraie peur de la population que l'art puisse les influencer au point où le pays va sombrer. Enfin, je trouve que c'était le discours majoritaire dans beaucoup de médias américains.
Mais ça suivait aussi. 2019 a été une grosse année de la ressurgissance du discours de les jeux vidéo rendent violents. Là.
Oui.
Ouais, ça, je trouve qu'il y avait quand même une continuité avec ça.
Non, c'est très juste. C'est toujours c'est cette logique de l'art peut influencer les gens. Donc attention, n'allez pas voir ce film. Il va vous donner des mauvaises idées. Enfin, il y a vraiment un contrôle sur le domaine artistique dans les médias dominants qui est un peu dommage. Ouais. C'est ça qui a été appliqué au Joker, je trouve.
Mais c'est aussi. Ouais, pardon.
Oui, c'est ça. Puis il y a aussi un peu une absence de jugement qui est... Donc la population n'aurait pas son propre jugement, n'aurait pas son mot à dire, ne pourrait pas réfléchir par elle-même sur le film. Et ce qui était souvent sous-entendu, c'est que face à ça, le public ne va que répéter et faire acte mimétique plutôt que de se forger une opinion propre.
Ouais, c'est intéressant ce que dit Charles parce que c'est très ironique pour un film qui parle un petit peu de lutte des classes. Il y a un mépris de classe de la part des médias à penser que le public ne peut pas s'informer lui-même, en fait.
Ouais, c'est ça. Puis c'est toute l'idée, comme tu mentionnes, la peur de la mimésis, là. On a peur de l'imitation. On a peur que la fiction influence directement les actes et les pensées de ceux qui les consomment, comme si on n'était pas capable d'avoir de pensée critique. Mais il y a souvent ça avec la culture pop aussi c'est la masse qui consomme, donc la masse sera aussi influencée. Et toute cette idée que regarder de la violence provoque de la violence, qu'on sait depuis on a plus de 2000 ans aujourd'hui que c'est pas le cas, mais bon, il y a tout ça qui ressort dans les discours des médias sur le film. Mais il y a aussi le après, parce que là, tu as mentionné aussi, Régis, que dans le film, justement, il y a comme un discours paradoxal entre qu'est-ce que le film représente et qu'est-ce que les médias disent sur les gens qui vont voir le film.
Ben, tu sais, c'est comme quand on parlait du discours des, tu sais, comme tous les gens qui ont eu peur que ce film-là était une promotion d'un discours proche de ceux qu'on appelle les incels, les célibataires involontaires en français. Quand on regarde le film, on voit pas ça. Il y a rien qui sous-entend que, tu sais, même si finalement le personnage du Joker avait une relation qui était non réelle, une relation amoureuse qui n'existait pas, il a jamais sous-entendu que il aurait mérité cette relation-là et que c'était injuste qu'on lui ait pas donné. Le problème, puis si on en parlait justement hors d'onde, c'est que je crois que il n'y a pas un problème. Je pense pas que le film fait une promotion de ça, mais je pense que quand même, puis on parle souvent aux Amazones d'un discours masculiniste quand même qui fait partie intrinsèquement souvent des fandoms puis des gens qui propulsent le fandom. Et je pense que c'est plus le fait que je pense pas que le film promouvoit un discours masculiniste de victimisation de pauvres monsieur, mais je pense que les gens qui ont déjà je pense que les gens qui ont déjà un a priori vers leur propre introspection d'eux-mêmes en se disant « je suis une pauvre victime » peuvent prendre le personnage du Joker comme un modèle de leur victimisation. Mais ça, c'est pas la responsabilité de l'art de faire attention à ça. C'est la responsabilité, je pense, de la société de traiter les personnes incel et masculinistes qui sont sur les internets et qui promeuvent des discours haineux. C'est pas à cause du film que ces discours-là ont lieu. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont ce discours-là qui reprennent les images du film. Mais en même temps, on va pas s'empêcher de faire un film parce que ces discours-là vont être pris.
Mais c'est ce que je trouvais intéressant dans tout le battement médiatique qu'il y avait eu autour du film, surtout avant sa sortie, c'est justement tous ces discours-là qu'on a relatés ici dans les dernières minutes sont... en fait, c'est plus intéressant d'avoir que le film provoque ces discussions-là sur la société. De pourquoi on a peur que les gens aillent faire des fusillades dans les cinémas? Pourquoi on a peur des SL? Pourquoi on a peur que ce film-là provoque de la violence? C'est parce que c'est des discours qui existent déjà, qui sont ambiants, puis qu'on les voit, on les ressent, on les subit même. Mm-hmm. Puis donc, il y a ces conversations-là qui sont provoquées sur la place publique, à la télévision, à la radio. Puis je trouve que c'est quand même un film qui provoque ces discours-là, malgré le fait que c'est pas ça de ça qu'il parle. Mm-hmm. On a plus peur de l'idée qu'on se fait du film que du film lui-même.
Mais j'irais assez loin en disant que c'est presque un aveu d'échec aussi de la part des médias, parce que s'ils pensent que les gens vont faire ça, c'est qu'ils savent qu'il y a un malaise dans la société. Mm. C'est pour ça qu'ils en parlent autant, d'ailleurs. Je voulais compléter un petit peu sur le retour sur les médias. Selon moi, il y a vraiment une double dépréciation médiatique. C'est une dépréciation de classe. C'est-à-dire, on pense que les gens sont pas assez éduqués, comme on l'a dit tout à l'heure, avant le film. Et ensuite, après la diffusion, le mépris a changé. Il y a eu un mépris vraiment culturel. C'est-à-dire qu'on a considéré que on allait plus s'attaquer au fait que le film était dangereux, mais que le film était stupide, parce que de toute façon, c'était inspiré d'un comics. Et je trouve vraiment qu'il y a eu cette double dépréciation-là. De classe et de culture. Ce qui revient pratiquement même, parce qu'en fait, on considère que les gens qui vont voir ça, c'est des gens d'une classe plus basse. Et je prends l'exemple de... Je suivais beaucoup les médias aussi en France, et France Culture, qui est quand même d'habitude des émissions très intéressantes, ils ont taillé le film en pièces en disant que de toute façon c'était un comics, que c'était pour les gamins, qu'il n'y avait rien d'intéressant. Il y avait vraiment un mépris culturel incroyable. Donc c'était une autre façon d'abaisser le film, plutôt que de dire n'allez pas le voir, c'est dangereux.
Mais personnellement, si j'en ai parlé aux Amazones, si on peut revenir au traitement de médiatique, je fais partie de la gang. Si on n'est pas nécessairement obligé d'être en dichotomie, pas en dichotomie, je mets en opposition, là, mais moi, je fais partie des gens qui n'ont pas apprécié le film. Et ce que je disais, c'est une des choses qui a le plus nui au film, c'est son marketing. Parce que le film avait un marketing qui était beaucoup axé sur toutes les réponses que le film allait avoir sur des œuvres les œuvres de Scorsese. Donc, le film se vantait d'être une réponse moderne à Taxi Driver et à The King of Comedy. Et quand on a vu ces films-là, puis qu'on a apprécié ces films-là, puis qu'on a eu la chance de voir souvent plusieurs codes et tropes et choses comme ça qui ont été utilisées dans le film, dans ces œuvres-là, puis qu'on nous dit, regardez ce grand film, oui, qui se passe dans un... avec des outils de la culture pop, mais qui, dans le fond, reprend le code du film d'auteur et qui va aller loin dans sa réflexion, ben on arrive devant le film et c'est de la même façon qu'on peut quand même apprécier un film d'auteur et apprécier un film de culture populaire type super-héros. Moi, j'étais déçue parce que ce film-là, je l'ai déjà vu en mieux. Et c'est pourquoi, genre, quand je suis sortie, j'étais un peu déçue parce que j'avais l'impression d'avoir subi, puis je m'étais tellement hypée en me disant, ah, j'ai tellement aimé The King of Comedy, c'est sûr que ce film-là va être bon. Et là, tu fais, ah, non, ce film-là n'est qu'une pâle copie. Puis encore une fois, il y a plein de gens qui ont apprécié le film et qui n'ont pas vu ces films-là ou qui n'avaient pas ces codes-là. Fait que je veux pas dire que ces gens-là étaient stupides, c'est pas du tout ça, mais plus que quand on a peut-être pas eu la chance de voir les œuvres originales de quelles ces films-là s'inspirent, ben ça crée pas une même horizon d'attente. C'est plus ça, en fait, je pense. Mais ça veut pas dire que les gens qui ont pas apprécié le film ou qui ont apprécié le film pas basé sur cet argument-là ont tort, là, mais...
Non, je sais pas, j'ai vu les deux films de Scorsese et j'ai vraiment trouvé Joker excellent. Bon, mais parce que pour moi, il était pas sur la même... J'en attendais pas la même chose, tu vois. Mm-hmm. J'en attendais une réinterprétation à l'aune du mythe du comics, en fait. Et je trouve que là-dessus, il gérait bien, tu vois. Je le situais pas par rapport à King of Comedy. Je le situais comme une... Comment est-ce que je vais parler du Joker en faisant référence à ce type de film? Et ça, je trouvais ça intéressant. Mais bon, on va en parler après, j'imagine, là, tout ce qui est mythe.
Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous permettait d'offrir à un grand public des questions qui sont peut-être réservées habituellement aux films d'auteur. Donc se questionner sur la dépression, se questionner sur la maladie mentale et tous ces points-là qui sont peut-être moins accessibles dans le film populaire. Puis c'est ça on pouvait le passer à travers le biais d'un univers fictif qui était l'univers de Batman, qui au final reste assez... peu représenté, si ce n'est Bruce Wayne. Donc, il n'y a pas toute la présence des vilains typiques. Donc, on reconnaît aussi pratiquement New York qui prend la place du Gotham, en fait.
Mm-hmm. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un film qui se veut entre les deux. T'sais, c'est un film de super-héros qui se veut un film d'auteur, et c'est un film d'auteur qui se veut un film de super-héros. Mais comme, moi, je trouve que personnellement, c'est ce qui lui est donné... j'ai vraiment pas le mot dans ma tête en ce moment, là, mais qui lui a empêché peut-être de se réaliser à son plein potentiel, si je peux me permettre, au sens où on essaie de garder ces codes-là pour les gens qui connaissent bien le monde, l'univers de Batman. T'sais, on reprend la scène dans la ruelle avec les parents de Batman qui sont tirés dessus, le collier de perles, qui est comme quand même une image qui est iconique de cette scène-là. Tous les personnages, l'asile d'Arkham, c'est comme, il y a beaucoup de codes qui reviennent pour comme un peu des signes de connivence, pour reprendre aussi l'histoire du personnage du Joker, mais aussi j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant une maîtrise de cet univers-là, au sens où le personnage du Joker lui-même a un historique, a une philosophie derrière justement sa construction dans les comics et au cinéma même, qui est celle qu'il n'y a pas de origin story, il n'y a pas d'histoire originale, il n'y a pas d'origine fixe et fixée qui serait canonique, au sens où il y a justement une panoplie d'histoires d'origine du Joker et elles sont toutes techniquement valables. Puis je trouve que le film de Nolan le faisait bien avec le Joker de Heath Ledger, au sens où il répète toujours une histoire différente quand il demande
avec ton sourire,
est-ce que tu veux savoir où est-ce que j'ai eu ces cicatrices-là. Puis tu sais, je trouve que c'était une belle manière, c'est un beau hot take de ce principe-là qui régit le fait que le Joker est un personnage éminemment chaotique et qui est imprévisible. Aussi, t'as pas de passé, tu peux difficilement, ça c'est toute la philosophie existentialiste, là, si ton passé n'est pas fixe, en fait c'est ton passé qui définit tes actes futurs, puis c'est ça aussi, c'est à partir de ce passé-là que tu vas réinterpréter le monde différemment. Si t'as pas de passé fixe, ton futur est imprévisible, en fait. Ton futur n'est pas fixé. Ouais. Fait qu'il y avait comme cette entreprise-là qui fait qu'il y a comme déjà un paradoxe de base avant même d'avoir vu le film, au sens où on veut faire une origine à un personnage qui n'a techniquement pas d'origine. Fait qu'on commence, c'est comme un peu compliqué, Je trouve qu'ils ont fait, il y a un bel essai, puis il y a une belle histoire, puis je trouve que c'est un film intéressant qui aborde des sujets qu'on aborde rarement au cinéma, justement toute la lutte des classes, la violence systémique liée à des inégalités sociales, les troubles de santé mentale. C'est comme, il y a toute une panoplie de sujets très importants, très sensibles, qui sont abordés dans le film et qui se marient un peu étrangement avec la mythologie du personnage.
Puis si je peux faire un lien aussi avec Logan, tu sais, Logan a un thème essentiel.
C'est la même entreprise au final.
Mais tu sais, dans Logan, le thème, c'est le passage au suivant parce qu'on vieillit, on va mourir. C'est la déchéance aussi quand on vieillit avec Charles Xavier qui a clairement des problématiques d'Alzheimer. Puis le fait qu'il y a je me rappelle plus des noms parce que je ne suis pas ce type de geek qui connaît tous les noms des personnages, mais je me rappelle que, tu sais, la jeune justement qui avait des pouvoirs
X-23
qui avait des pouvoirs relativement similaires à ceux de Wolverine. Donc c'est, fait que tu sais, on avait un grand thème, et dans Joker on avait plusieurs thèmes, et c'était un très long film qui avait tous ces thèmes là mais c'était ça, j'ai trouvé moi personnellement en tant que spectatrice, puis peut-être aussi en tant que spectatrice qui travaille avec les personnes en situation de difficulté de santé mentale, travaillant avec les personnes en situation d'itinérance, j'ai trouvé que le film allait souvent peu en profondeur de ces problématiques-là. Mais ça, écoute, ça rentre encore dans des trucs comme de peut-être d'horizon d'attente, où j'étais comme d'accord, mais quoi après, tu sais? Mais en même temps, est-ce que ça aurait été plus intéressant si on avait parlé que de santé mentale, mais pas de lutte de classe? Est-ce que ça avait été intéressant si on avait parlé que de lutte de classe, mais pas de santé mentale? Peut-être pas. Peut-être que ça, c'est pas ça qui aurait donné. C'est peut-être pas l'effervescence des thèmes que crée cette ambiance-là. Mais je me questionne quand même. Il y a tellement de choses qui sont soulevées, mais qui sont pas achevées, que je trouve ça dommage qu'on n'ait pas été au plein potentiel de ces grands thèmes-là si importants. Mais écoute, si ça fait qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas aux questions des luttes des classes, puis qui ne s'intéressent pas aux questions d'abattre le capitalisme sauvage, puis qui ne s'intéressent pas aux questions des enjeux de lutte de classe, pas de lutte de classe, mais des enjeux d'acceptation de la différence au niveau de la santé mentale, pourquoi pas? T'sais, pourquoi pas si ça a vraiment fait cette ouverture-là? Ça reste des bonnes, peut-être, portes d'entrée. Mais c'est quand même un film qui était dédié aux jeunes adultes en montant. Fait que c'est pas un film qui va aller toucher nécessairement une jeunesse, techniquement, même s'il y a plein de gens qui vont l'avoir vu, même s'il n'y avait pas l'âge, là. Mais, tu sais, c'est pas un film, mettons, qui va aller influencer des jeunes adolescents qui auraient pu faire comme, OK, je vais me poser ces questions-là. Alors que si on prend, par exemple, d'autres anti-héros, parce qu'on faisait des liens avec d'autres anti-héros qui ont un peu cette connotation-là, puis qui ont eu des impacts dans la vraie vie aussi après, avec leur symbolique. Le Joker, tu disais qu'il y avait eu une manifestation récemment où des gens avaient récupéré...
Oui, c'est ça. Donc, au Liban, mais aussi dans d'autres pays, ils ont récupéré le maquillage ou des masques qui reprennent le même maquillage que dans le film de Joker, là. Donc, ils prennent l'iconographie du Joker pour manifester et aussi pour cacher leur identité, ce qui est quand même pratique. Comme dans le film, en fait.
Comme dans le film, puis ce qui avait été fait aussi avec, bien sûr, tout le mouvement Anonymous, les gens qui utilisent le masque de Guy Fawkes dans les manifestations, toute cette espèce de promotion-là que V for Vendetta a permis avec la bande dessinée, puis ensuite le film, et surtout le film, faut dire. Et aussi avec Katniss Everdeen, il y avait eu, à la suite du deuxième opus ou du premier opus, mais pas le... Tu sais, le troisième film qui était séparé en deux, je crois que c'était après le deuxième qu'il y avait eu l'utilisation du symbole des trois doigts en l'air, qui était avec le sifflement, qui est le symbole du district 12, qui avait été repris par des manifestants et qui avait été battu par la suite lors de manifestations en Asie. Donc, c'est quand même intéressant de voir que, ben oui, ces objets de pop culture-là finissent par se faire approprier parce que on l'a vu à l'écran. Regardons à l'écran, tu sais, puis ça me fait penser à ce qu'on faisait comme lien envers l'incrédulité des personnes qui vont aller voir les films puis qui vont des personnes qui vont aller voir le film puis qui vont se laisser influencer, mais il y a quand même cette notion là où quand on a un aspect de solidarité, ben on va essayer de recréer cette solidarité là, je pense, en mouvement d'émeute puis en mouvement de manifestation. Est-ce que justement le personnage de Joker s'y prêtait bien, alors qu'on n'est pas sûr, au final, quand on parlait hors d'onde, on n'est pas sûr, au final, si c'est un vrai leader de rébellion, tu sais.
Mais c'est... parce que c'est un personnage quand même fondamentalement nihiliste, comme tu me disais, Charles, avant d'entrer en onde, et apolitique. Puis le personnage le dit dans le film, il dit « Moi, la politique, ça m'intéresse pas. J'ai pas vraiment d'intérêt envers ça. » Mais il devient quand même... Il accepte aussi ce rôle-là à la fin du film de... pas le leader d'une révolte, là, une révolte populaire aussi. Donc, il y a comme tout ce discours-là que je trouve très intéressant dans le film, puis on voit rarement ça au cinéma aussi. Puis croisé avec le personnage de Joker, ça, il y a comme une ambiguïté qui est étrange, à mon avis.
C'est ça, c'est même à se demander quelle est la position politique qui peut être tenue à partir d'un personnage comme celui-ci, qui est, oui, est très rapidement repris pour la lutte des classes, mais qui se veut justement profondément nihiliste, qui ne représente pas une lutte organisée contre le pouvoir, mais qui est une lutte qui, tout au long du film, joue entre l'attaque de la société puis un retour sur soi-même, avec ses fréquentes scènes où on ne sait jamais s'il va s'attaquer à autrui avec son fusil ou finalement retourner l'arme contre lui. Donc c'est vraiment à se positionner, à savoir quand on reprend cette figure-là, qu'est-ce qu'on essaye d'interpréter? Est-ce qu'on essaye d'interpréter ce nihilisme-là, donc dans les émeutes à la fin du film, qui semble totalement désorganisé, seulement avec comme seul but vraiment de créer une émeute, de créer le chaos, ou il y a une recherche de renversement du pouvoir qui semble assez difficile avec un personnage comme ça, qui n'est pas capable d'avoir un discours, ou qui réussit juste à la fin, complètement avoir un discours politique, alors que tout le reste du film, il est très apolitique.
Je dirais même pas qu'il a un discours politique, j'ai l'impression qu'il a un discours individualiste, du type... À un moment, il dit « la société n'a plus de décence », en fait, il parle vraiment en son nom. Moi, j'ai le sentiment qu'il accepte pas d'être un leader politique à la fin, mais qu'il accepte juste d'être un
martyr.
Dans un show. Bon, pour moi, c'était ça.
Son objectif, c'est d'être vu.
C'est d'être vu. Et en fait, il accepte le spectacle. D'ailleurs, la façon dont il danse sur la voiture, c'est... Pour moi, il n'est pas du tout dans la politique. Il s'en fout complètement. Mais par contre, les gens qui sont autour de lui, oui. Et dans ce sens-là, on a le sentiment presque que tous ces gens-là suivent un faux messie, en quelque sorte, parce que lui est nihiliste, il s'intéresse à rien. Alors que les gens ont des revendications sociales qui sont vraies.
Mais ça discrédite leurs revendications parce qu'ils sont écervelés et suivent un...
Oui, bah d'ailleurs, encore une fois, ça rejoint le discours médiatique sur le film. Et je me demande si c'est pas ce que les médias ont interprété aussi.
Mais c'est ça qui est étrange, parce que quand tu croises un discours comme ça, puis qui a été repris aussi dans des réelles manifestations, puis qui sont repris dans des luttes qui sont légitimes, puis là, on croise ça avec l'univers de Batman, où le Joker, c'est pas le héros, c'est un personnage qui nous fascine depuis sa création, c'est un personnage chaotique, violent, nihiliste, qui parle aussi à une certaine partie de nous, mais c'est pas le héros. C'est le héros, c'est Batman, même si Batman est comme quand même une icône fasciste d'un monsieur très très riche qui décide de puncher des gens parce qu'il est la justice et il va l'exécuter. Là.
Mais voilà, puis qui va faire une surveillance accrue dans les.
Oui, totalement.
Tu sais, avec comme toute la notion du Patriot Act qui est sortie, là, tu sais, où est-ce qu'on a le droit d'aller fouiller dans vos affaires pour votre propre bien. Toute la scène dans Dark Knight Rises quand ils font un tribunal de justice du peuple pour dire aux méchants banquiers puis aux méchants bourgeois qui ont été donc méchants, mais que dans le fond les vrais méchants c'est eux qui enferment des policiers dans un tunnel parce que les pauvres polices, tu sais, puis c'était tellement surréel dans mon sens quand on regarde ça avec un peu de recul, puis tu te dis comme wow, ok, fait que c'est ça le message, c'est, puis écoute, je pense que toute l'histoire de Dark Knight Rises est sortie avant, mais quand c'est sorti au cinéma, il y avait quand même tout le mouvement Occupy. Puis là, qu'est-ce qu'on voit? On voit les manifestations monstres à Hong Kong qui continuent, au Chili, là, que tout récemment avec le Chili qui se soulève, les manifestations des jeunes dans la rue à tous les vendredis, les manifestations justement que tu parlais au Liban. Mais tu sais, je pense que c'est ça, c'est que tout cette mouvance-là, ou même, on pourrait parler des gilets jaunes, mais tu sais, tous ces mouvements-là ont des objectifs, ou du moins, tu sais, ont une pensée. Dans le cas des gilets jaunes, des fois, c'est un peu plus flou, là, mais il y a quand même eu des objectifs clairs, tu sais. En Hong Kong, c'est on veut protéger notre démocratie. Les jeunes qui sortent le vendredi dans la journée pour aller manifester, c'est mon éducation vaut rien si tu me promets pas une planète viable. Il y a des objectifs, alors que là, dans Joker, l'objectif, c'est on a un ras-le-bol.
Ouais, mais c'est aussi que, tu sais, on vit dans la misère, puis maintenant, on sait que cette misère-là est créée par l'élite économique, c'est-à-dire la famille Wayne, la plupart du temps. Parce que...
Ouais, mais je dirais que justement, Joker a été beaucoup plus audacieux que Rises, dont tu parlais, notamment la figure de, le père de Bruce Wayne, j'ai oublié son prénom, Thomas.
Thomas.
Thomas Wayne est une ordure dans le film, totalement assumée. Enfin, je trouve que il représente indirectement Trump, parce qu'il utilise la même citation que lui à un moment donné, je sais pas si vous l'avez entendu, mais il dit à un moment, ces gens ne comprennent pas que je suis leur seul espoir. Et Trump avait dit ça en parlant de la communauté afro-américaine, c'est la même phrase. Et en fait, ils font vraiment passer Thomas Wayne pour une ordure de première, un milliardaire qui comprend pas le peuple. Et je trouve que Joker est très très actuel à ce niveau-là. C'est-à-dire que toutes les révolutions dont tu parlais correspondent à ça. Dans Joker, on montre bien que le milliardaire est une ordure. D'ailleurs, Bruce Wayne est planqué derrière sa petite grille avec Alfred. C'est incroyable cette scène aussi. C'est genre, il y a deux mondes qui arrivent pas à se rejoindre. Et là, je trouve que c'était plus intelligent que Rises, qui, comme tu disais, peut faire pencher la balance du côté de ceux qu'on considère plutôt les méchants. Et là, c'était vraiment les riches ont des ordures, il faut tout brûler, et c'était extrêmement nihiliste à ce niveau-là. Ouais,
ouais, mais c'est ça, il y a aussi le fait que c'est. Puis je trouvais ça intéressant ce que tu soulevais tantôt, le fait que le Joker est un personnage très individualiste, parce que c'est aussi ça la lutte. On dirait qu'il y a la masse, il y a la masse des gens un peu anonymes qui se révoltent à la fin, mais au final, c'est une lutte très individuelle. Tu sais, c'est du monde qui vivent dans la misère parce qu'il y a ces inégalités-là qui sont créées par l'élite économique. Mais au final, on est chacun notre bord, puis on souffre chacun notre bord, puis c'est ça, là, c'est comme, il y a comme pas vraiment d'espoir, outre la révolte. Mais il y a comme, quand on remet ça dans le contexte, justement, de la mythologie du personnage du Joker et de Batman, c'est que cette masse-là devient celle qu'on craint, celle qu'on veut pas, justement, qui fasse retour et qui se révolte et qui reprenne la place qui lui est due, en fait.
Oui, mais c'est ça, mais qui l'a craint dans le film, si ce n'est Thomas Wayne qui s'enfuit dans la ruelle en sortant du théâtre? Il n'y avait personne d'autre qui l'a craint. Qui l'a craint, c'est Robert De Niro quand il est sur le en tant que journaliste. En fait, qui l'a craint dans le film, c'est vraiment les pouvoirs institués, c'est-à-dire les médias dominants plus les milliardaires. Sinon, y a quand même cette scène où le Joker se fait agresser par au début des personnes qui sont plus issues de la population basse, et puis ensuite les gamins de Wall Street là, donc il y a un peu les deux univers, mais c'est quand même beaucoup plus, j'ai l'impression, les riches qui sont montrés du doigt dans le film qu'autre chose.
Et puis c'est quand même intéressant, j'ai quand même aimé la scène où est-ce que justement on voit les trois bullies après qu'ils soient assassinés, puis qu'on parle d'eux dans les médias, puis qu'on les voit comme de pauvres gens qui vont avoir perdu, tu sais, que c'est comme de la ressource humaine sacrifiée, parce que ça aurait tellement été des grands travailleurs, puis je pense qu'il y en avait un qui était peut-être même fiancé, puis tu sais, genre, justement, quand
il y
avait
un bel avenir,
il y avait un bel avenir,
c'est ça.
Puis ça me fait penser à tous les discours, justement, quand il y a par exemple des personnes qui sont reconnues coupables d'agression, ou lorsqu'ils sont en processus d'être accusés d'agression sexuelle, puis qu'on dit comme, mais il y avait tellement un bel avenir, c'est comme, ben il y avait juste à pas violer personne, tu sais. Puis c'est comme, ok, ils ont été assassinés lâchement pour le média, mais c'est comme, oui, mais ils ont été odieux, tu sais. Est-ce que la, puis ils ont reçu le coup, ils ont reçu le glaive d'une frustration qui est comme systémique.
Et si c'était Joker qui était mort dans ce métro là comme il le dit d'ailleurs pendant son grand discours, personne l'aurait noté. Donc là-dessus, je trouve que le film est audacieux, là-dessus,
ouais. Ouais, définitivement. Mais c'est intéressant de voir aussi, pour revenir à l'idée de la masse, parce que Charles, tu nous parlais d'une analyse marxiste que tu avais lue sur le film avant d'entrer en onde. Puis, le fait que c'est pas... On parle pas... Cette masse-là n'est pas la masse des travailleurs, justement, que tu as mentionné un peu plus tôt, la masse des travailleurs qui ont pouvoir actif dans la société, mais celle du lumpen prolétariat qu'on nomme...
Oui, c'est ça. Donc... Pour revenir à cette analyse, c'est une analyse qui était publiée dans Le Devoir par Mathieu Pelletier. Puis son point de vue était que le prolétariat présent dans ces années-là s'était stabilisé et s'était ancré dans la société à un point où il était impossible de se révolter. Donc sa stabilité, son revenu financier avait augmenté à un point où la révolution pour lui était totalement impossible, et il revenait donc au lumpen prolétariat, qui était le sous-prolétariat, donc la racaille, les laissés pour compte, de prendre cette lutte politique-là. Le principal défaut de ce lumpen prolétariat, c'est que c'est un mouvement qui, en lui-même, n'est pas capable de s'organiser, et au lieu d'avoir un objectif précis, va finir par s'autodétruire et créer un nihilisme. Donc, il n'y aura pas de renversement des classes, à proprement parler, plutôt qu'une destruction.
Analyse intéressante et avec laquelle on peut comparer les Gilets jaunes, justement, parce que le mouvement s'est autodétruit, il n'y avait pas de tête pensante. Ouais, je suis d'accord avec Charles, c'est vraiment intéressant.
Puis c'est la fin du film ouvre sur un peu une suggestion comme ça, parce qu'on ne sait pas si justement le mouvement va s'organiser ou c'est juste justement un ras-le-bol qui s'exprime en violence destructrice. Donc, on veut détruire des voitures, c'est vraiment l'imaginaire du mob comme un peu qui est pas très réfléchi qu'on relaie souvent pour les diaboliser, mais alors là il est comme glorifié dans le discours du film. C'est, il y a vraiment une ambiguïté assez
c'est ça, c'est intéressant aussi que le film se clôt sur une scène d'isolement, alors que les dernières scènes, c'est cette grande émeute avec la glorification, la nomination à héros presque du Joker, suivi peu de temps après par cette entrée en isolement à Arkham où on compte donc une mort programmée de l'émeute, et vraiment un retour aussi très individuel. Au lieu de clore sur cette grande émeute et les possibilités, on dirait qu'ils ont coupé court toute possibilité d'émeute en coupant la tête dirigeante. Mmh. Qui est aussi improbable qu'elle soit.
Mais il y a plusieurs interprétations. J'avais tendance à interpréter la scène de fin comme étant vraiment dans le futur, personnellement. C'est-à-dire qu'entre l'émeute et son isolement, il y a des années qui sont passées. Il y a quelques petits symboles qui peuvent montrer ça. Là, les cicatrices qu'il a au visage se sont cicatrisées, pléonasme. Le décor a l'air un peu plus moderne. Enfin, je sais pas. J'avais vraiment l'impression que c'était dans le futur. Et qu'en fait, le Joker avait eu des années, justement, de. En tant que criminel. D'ailleurs, la façon dont il tue l'infirmière à la fin, ça donne l'impression qu'il est encore plus expérimenté pour tuer des gens avec rien. Je trouvais ça intéressant aussi comme détail. Je sais pas si vous vous souvenez ça. C'est quand il sort de l'isolement, il y a du sang quand il marche, donc on comprend qu'il l'a tué aussi.
Non, c'est ça. Puis il y a dans toutes ces scènes un peu un apprentissage, aussi sordide que ça peut l'être, de la violence, puis de prise de contrôle, d'agentivité de son propre pouvoir meurtrier. C'est-à-dire que au départ, donc, pour revenir aux trois assassinats des jeunes bourgeois, faute de meilleurs termes, c'était presque de l'autodéfense, c'était pas calculé. Et plus le temps avance, plus qu'on voit qu'il prend un certain contrôle de sa capacité et justement qu'il se concrétise, qu'il arrive à son apogée avec cette dernière scène où il n'y a même plus besoin d'armes.
Ouais, c'est ça, il a plus besoin d'armes. Le garde, il le fait balader. On comprend qu'il peut s'enfuir quand il veut. Enfin, c'est une dernière scène assez surprenante.
Puis qui ouvre aussi sur justement ce qu'on connaît du personnage du Joker, qui a pas besoin justement des moyens traditionnels.
Non, c'est ça, exactement. Et puis il est très à l'aise la façon dont il parle à l'infirmière. Il fume sa cigarette, et il rigole, il dit tu comprendrais pas la blague de toute façon. Genre.
Mais pour revenir à ce que tu disais sur le fait qu'il y a justement, on sait pas trop combien d'années ont passé ou combien de temps a passé. Il y a tout un jeu sur la temporalité et la narration dans le film qui est très intéressant, qui est très mélangeant en tout cas. Là. Donc, on voit que c'est un narrateur non fiable, on comprend pas trop exactement qu'est-ce qui est de l'ordre du réel. Il y a des fois où on nous l'indique explicitement, d'autres fois où que ça reste dans l'ambiguïté. La construction temporelle du film est assez décousue. Pas à la Memento jusque-là, là, mais il y a quelque chose d'une ambiguïté qui laisse aussi, qui participe de tout ce malaise généralisé qu'on peut ressentir quand on voit le film.
Ouais, on sait pas ce qui est réel, on sait pas ce qu'il faut. Elisabeth avait une théorie, je pense que c'est le moment de la balancer sur les ondes.
Et j'avais tellement de choses à dire aussi avant cette théorie-là. Moi, j'étais du clan, je suis dans plein de clans aujourd'hui, mais j'étais du clan des gens qui croient que le film n'a pas vraiment eu lieu, ou du moins a moins eu lieu qu'il semble le sous-entendre. Je me suis fait challenger tantôt par Jean-Michel Bertillon qui me disait « Mais t'as-tu comme plusieurs affaires? » Fait que là, j'étais obligée de... Parce que je me basais beaucoup sur la chronologie où on voit Arkham, en fait. Et quand j'en avais parlé aux Amazones, à ce moment-là, on m'avait répondu, je vais reprendre quand même la chronologie, lorsqu'il parle avec sa travailleuse sociale, qui pour moi est aussi une scène qui n'a pas dû avoir lieu parce que je trouvais que ça avait aucun bon sens comme dialogue d'une travailleuse sociale envers son aidée. Mais ça écoute, encore une fois, c'est peut-être...
Des formations professionnelles.
Mais où est-ce que j'étais comme, ça se peut pas cette discussion-là, ça n'a aucun esprit de bon sens. Mais où est-ce qu'elle lui disait, ça sous-entendait comme comment tu te sens maintenant que t'es comme dans le monde sorti de Arkham, puis qu'on voit le petit mini 30 secondes de lui qui se cogne la tête dans une salle d'isolement. Et ensuite, on laisse planer ça. En fait, on parle plus de ça du tout. Et ensuite, lorsqu'il va à Arkham pour voir le dossier de sa mère, ce que j'ai trouvé le plus fascinant, en fait, dans ce dossier-là, c'est la...
Le diagnostic.
Parce que je regardais le diagnostic, puis j'étais comme, ça n'a aucun sens. Pour moi, on représente pas ce qu'on a devant nous. C'est pas une femme schizophrène, affective, avec un trouble de la personnalité narcissique. Ça n'a aucun sens. Puis je me suis dit, mais ça pourrait être le Joker que ce diagnostic-là. Fait que j'avais l'impression qu'il lisait son propre dossier. Bon, ça, c'est mais en tout cas, parce que je trouvais vraiment plus que sa mère avait l'air d'être dans une érotomanie avec une potentielle dépression, là, ouais, tu sais.
La piste est ouverte, ouais.
Ben voilà, mais c'est ça, mais ça, pour moi, ça ne ressemblait pas du tout à ça, fait que j'étais comme ça. Puis, je me suis fait beaucoup challenger sur cette théorie-là en me faisant dire que semblerait-il que le scénariste et directeur du film n'est pas assez talentueux pour vraiment penser à tout ça. Ce à quoi je pourrais répondre, ben dans ce cas-là, peut-être que l'utilisation d'un diagnostic de schizophrène pour expliquer une personne qui a des problématiques avec la perception de la réalité n'est qu'une façon très facile d'expliquer ça, parce que on pense souvent que la psychose ne fait partie que du trouble de la schizophrénie, alors que la psychose est ultra présente dans plein de problématiques. Tu sais, si mettons son diagnostic avait été bipolaire, j'aurais dit je comprends plus, ça aurait eu plus de sens. Mais écoute, je suis pas une psychiatre non plus, je vais pas me revendiquer d'avoir la grande connaissance d'un DSM-5 par cœur dans le cerveau, mais quand même, il y avait cette notion là pour moi que lorsqu'il dit au gars de Arkham, à la personne responsable des dossiers, puis qui dit comment on fait pour se retrouver ici? Et là, on m'a répondu, mais c'est parce qu'il voulait brouiller les pistes, parce que dans le fond, il est déjà allé chronologiquement quand on faisait cette réflexion-là. Mais j'étais comme, je pense pas. J'ai pas ce sentiment-là que c'est ce que le film veut nous dire. Mais écoute, fait que, et là, à la fin, lorsqu'on revoit la même salle, une salle très blanche, immaculée, où est-ce que c'est là qu'il est enfermé, je me suis dit, soit un peu à la Usual Suspect, il y a des choses qui se sont passées, mais on nous a donné, basé aussi sur ce qu'ils connaissaient pour bâtir une histoire qui était au final une blague que probablement plein de gens ne comprendront pas. C'était ma lecture, mais je peux me tromper. Mais
c'est intéressant.
C'était ma lecture.
J'aime bien. Mais j'avais lu une autre théorie qui disait que toute la scène après De Niro et son assassinat, ça c'était faux, et qu'en fait après son assassinat il s'est fait arrêter, il a été directement dans l'isolement, que toute la scène où il se fait célébrer par la foule, ça n'existe pas non plus. Donc il y a plein d'idées sur le fait qu'il y a des scènes qui n'existent pas. Moi personnellement, je pense que tout a existé, sauf évidemment sa fausse relation là.
Ouais, moi aussi c'était un peu mon point de vue de les scènes où on nous dit explicitement que c'était pas vrai, que c'était les pas vrais, c'est comme...
Ouais, ça, moi je pense que je fais pas partie de ceux qui pensent que Todd Phillips c'est trop con mais peut-être, mais je pense que tout a été réalisé.
Il y a un discours très nuancé sur sa pratique, là, en tout cas dans les entrevues, quand on lui pose des questions, surtout sur toute l'aspect politique de son film, il est un peu évasif, puis il est pas très...
Mais il est possible qu'il ait laissé, par contre, qu'il ait eu l'intelligence de laisser des portes, ça c'est très très possible, effectivement. Mais il en a laissé d'autres d'ailleurs, donc oui, ça c'est possible.
Ça se peut. On sait pas, on n'est pas dans sa tête. Mais je trouve que c'est plus intéressant justement de discuter du film que de savoir qu'est-ce que Todd Phillips a à dire sur son propos.
Ouais, bien sûr, ouais, évidemment. Ouais.
C'est quand même le réalisateur de Hangover 3, je sais pas. Il y a aussi ce jugement-là qui rôde dans la manière dont on interprète le film. Là.
Mais je pense que pour revenir à la question de la santé mentale, c'est quand même important, parce que moi, je trouvais quand même qu'il y avait un aspect dans le film que il y a des films, mettons, récents qui parlent de santé mentale, on en a parlé aux Amazones, mais tu sais, toute l'œuvre Héréditaire et Midsommar qui parle de santé mentale de façon horrifiante, mais en remettant beaucoup, tu sais, que le message politique est clair, c'est la faute des gens qui ne prennent pas soin des gens blessés et traumatisés, c'est la faute de la société qui les prennent pas en charge, qui si ensuite vont les subir. Et la question qui se pose dans ce film-là, c'est quoi le message qui est fait avec la santé mentale? Je le trouve pas nécessairement très clair, même si clairement le fait de briser, ben pas de briser, mais de couper dans les services sociaux, ça doit pas aider. Mais il y a quand même une notion que je trouvais que, tu sais, la personne a une problématique de santé mentale et va donc devenir un agresseur qui va commettre des multitudes de meurtres. C'est quand même... ça aurait été intéressant peut-être d'avoir plus de personnages qui avaient des problématiques de santé mentale, dont, mettons, la mère, qui était sous-entendue, mais je trouve quand même que son diagnostic est bizarre, puis je trouve que, justement, ça joue aussi sur cette ambiguïté-là. Est-ce que la mère était vraiment folle, ou est-ce que la mère a pas subi, en fait, le fait que Thomas Wayne va jamais assumer qu'il y a eu un fils illégitime? Mais en même temps, est-ce que c'est logique que Joaquin Phoenix ait été son fils illégitime, parce que il y a quand même une différence d'âge pas si grande que ça, mais quoi que ça se pourrait que ça soit une jeune idylle. Mais aussi, elle avait la question que, en fait, c'est que lui, et là, c'est pour revenir à la question du traitement de la mère, parce que c'est reconnu quand même que un des aspects qui est important souvent dans un espèce de pattern de toutes les personnalités narcissiques, c'est qu'il y a une carence affective de la mère chez la personne qui a le diagnostic de trouble narcissique. Est-ce que c'est vrai, dans le fond, que sa mère l'a maltraité, attaché à des endroits, puis tout ça, puis que, bon, là, on parle de l'aspect plus environnemental.
Traumatique de la tête.
Exactement. Mais voilà, mais sur tous ces aspects-là quand même que je remets en question, il a été dit quand même que certaines personnes qui avaient la condition du rire non contrôlé, que malheureusement je maîtrise pas cette question-là, j'avais l'impression que c'était un type de Tourette, mais peut-être que je me trompe, si je me trompe j'en suis vraiment désolée, mais je trouvais vraiment intéressant que des gens ont dit ça m'a fait du bien de me voir à l'écran, donc juste pour ça il faut quand même
apparemment
souligner.
Joaquin Phoenix l'a beaucoup travaillé, ce rire incontrôlé là. Ça va me permettre de rebondir ce qu'a dit Elisabeth sur tout ce qui était santé mentale et responsabilité individuelle, en fait. Moi je trouvais que c'est ce que tu disais au début de l'émission, Megan, quand tu disais que les médias pensaient que c'était un film d'alt-right. Moi je trouve qu'au contraire c'est un film très à gauche, pour une raison principale, c'est que j'ai le sentiment qu'il est dans la droite lignée de L'homme qui rit de Victor Hugo.
Ben, le personnage du Joker est...
Oui, évidemment.
Toujours associé.
À la base, c'est ça. Mais et il est étroitement lié à la pensée de Victor Hugo, qui est en fait une pensée qui est celle de le criminel n'est pas totalement responsable de ses actes.
Tout à fait.
Qui était déjà présente avec Jean Valjean dans Les Misérables. Et j'ai le sentiment que dans le Joker, c'est vraiment ça. On retrouve cette idéologie qui est beaucoup plus à gauche, c'est-à-dire la responsabilité du collectif sur les actes d'un individu. Alors qu'en fait, la pensée à droite, c'est plutôt c'est l'individu qui est responsable. Incarné par De Niro, d'ailleurs, qui à un moment lui dit « Non, c'est toi qui fais de la merde, c'est pas nous, tu vois. » Et il y a plusieurs choses qui montrent ça, notamment le fait que je trouve que dans le décorum, ils insistent beaucoup sur le fait que ça se passe à New York, je trouve encore plus que d'habitude, selon moi. Notamment la présence de tous les spectacles. Ils montrent bien qu'on est dans le cœur culturel et médiatique des États-Unis. Et le fait qu'ils insistent là-dessus, ça montre aussi un changement de paradigme vis-à-vis du système. C'est-à-dire que le système qui rend le Joker dingue, c'est le système culturel. Il n'arrive pas à s'intégrer dans le spectacle. Il se fait discriminer par Robert De Niro, qui est le représentant de c'est lui qui donne l'approbation, en fait. Et il se fait mépriser par... donc je disais culturel et... Je me suis perdu dans mon raisonnement. C'est culturel et... médiatique, c'est ça exactement. Et c'est le centre médiatique avec Robert Niro qui représente en fait les deux pôles quasiment de ça. Donc je trouvais que c'est ça, on était plus proche de Victor Hugo. Le Joker n'est pas responsable de ses actes, c'est le système médiatique et culturel qui est responsable de ça. C'est-à-dire que c'est ce système-là qui conditionne l'individu à la violence.
Mais il y a aussi tout le système économique là, donc qui rentre aussi en intersection avec toutes ces problématiques-là que Victor Hugo représente en long et en large dans ses œuvres, Les Misérables, Voyons Notre-Dame de Paris,
ce qui était original, c'est de mettre l'accent sur le culture et le média. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle les médias n'ont pas aimé le film. Ils étaient vraiment montrés du doigt et ils sont tués sur scène. Donc,
Oui, il y a ça. Mais en fait, il y a aussi la critique cinématographique aime beaucoup ce genre de représentation-là aussi. Donc, il y a les Oscars qui s'en viennent. Il y a beaucoup de rumeurs quant à savoir si Joaquin Phoenix va avoir un Oscar, si le film va gagner les Oscars. Puis, c'est aussi un film qui parle parce que le film a gagné le Lion d'Or. Donc, ce qui est pas peu dire pour un film de super-héros, techniquement, si on veut. Donc, un film de super-vilain, plutôt. Donc, la critique cinématographique a très bien reçu ce film-là pour toutes sortes de raisons. Savoir s'il va continuer à être consacré justement par la critique cinématographique avec les Oscars. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement, en terminant?
Moi, je pense qu'il y a deux possibilités. Soit ils vont lui donner l'Oscar pour, en quelque sorte, délégitimer ce qu'il représente. soit ils vont pas lui donner parce que ils sont pas très contents de la façon dont ils sont représentés dans le film. Moi je penche pour la deuxième option.
Moi, je ne fais plus confiance aux Oscars depuis Argo. Donc, depuis ce temps-là, moi, c'est un beau party à regarder, mais ça reste quand même énormément politique. C'est pas, tu sais, même si t'es jugé par tes pairs, ça reste quand même que on donne des Oscars des fois à des gens parce qu'ils sont dus pour en recevoir un, pas parce que leur performance est vraiment la meilleure comparée à 8 autres personnes ou des millions là, dépendamment, parce que les Oscars aussi, c'était une critique quand même qui était faite des Oscars. Là, c'est un film américain, fait que ça fonctionne, mais tu sais que souvent ils vont se réapproprier en mettant des nominations pour des meilleurs acteurs ou des meilleurs films, des films internationaux, alors qu'ils ont une catégorie internationale, puis ça vient comme un peu légitimer les prix locaux quand des films internationaux peuvent être nominés pour un film un meilleur film. Bref, mais tout ça pour dire que là ça compte pas, mais ce que je veux dire c'est que ça reste quand même une game très politique. Fait que
ben, une autre raison pour aussi l'aborder là, c'est un peu comme tu dis Régis, c'est est-ce qu'on va valoriser ou dévaloriser le film en lui donnant un Oscar? Après ça reste à la critique d'en juger, mais il y a aussi le fait que la plupart de l'auditorat s'intéresse beaucoup au fait que cette critique-là donne un saut d'approbation ou pas à un film, que ce soit un film populaire ou pas. Donc,
mais je crois que les Oscars perdent en auditoire, puis on critique beaucoup les Oscars quand même de bouder un certain type de cinéma.
Oui, définitivement.
Fait que probablement que ça pourrait être gagnant politiquement pour eux de juste le faire gagner pour que le commun des mortels qui n'écoute pas de films d'auteur va faire comme « OK, ben,
mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec Elisabeth, c'est très politique les Oscars, et il y a une tendance populiste dans Joker qui fait qu'ils ont peut-être pas envie de le nominer aussi.
Ouais, puis c'était à se demander, justement, on se posait la question tantôt, vu que c'était à mi-chemin entre le film d'auteur et le film populaire, donc peut-être que cette nomination-là, même sans gagner, fait au moins donner un peu de crédibilité au populaire, permet de lui donner une valeur, un surplus de valeur. Puis c'est aussi en ces nominations-là, ça permet de se positionner à savoir, est-ce que on va consacrer le message ou au contraire, en essayant de le valoriser par les médias, on va pas justement enlever toute valeur de ce message-là.
Parce que si tu veux consacrer du populaire et ne pas soutenir un message politique, ben ils ont qu'à nominer Robert Downey Jr. au meilleur acteur pour Avengers, tu vois. Ce sera beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace. Ils disent, regardez, on reconnaît la culture pop, mais par contre, Joker, on le met de côté pour son message politique. Donc je pense que c'est plutôt ça qui se passera.
Ben, merci beaucoup d'avoir fait cette émission-là aujourd'hui. Merci Charles, merci Elisabeth, merci Régis.
Merci à toi, Megan.
Merci à toi.
Ben, merci à vous à la maison qui nous écoutez religieusement hein, chaque semaine quand on fait des émissions. on a quand même un peu fait le tour de la question, mais il en reste encore beaucoup à dire.
Je pense que dans ton cas, après un mois de discussion,
moi, ça va
être correct.
J'ai ma dose. Mais merci encore et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pop en Stock et bonne soirée. Somewhere